Bonsoir, vous êtes bien sûr IDFM dans l'émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM et je vous emmène aujourd'hui dans un endroit absolument sublime que nous visitons pour la troisième fois puisque nous sommes à la troisième saison la troisième saison du massif forestier de Montmorency, un endroit sublime. Aujourd'hui évidemment nous sommes en haut plein milieu du mois de juin et c'est le plein été. On est dans une phase un petit peu caniculaire et il se trouve que nous sommes un après-midi ici en forêt de Montmorency en compagnie évidemment de notre guide indispensable incomparable, hein, j'ose le dire, Denis Hémer, le forestier, le technicien forestier du massif de Montmorency. On est sur un surplomb, Denis, et on voit au loin ce qu'on ne voyait pas il y a quelques mois seulement, avant qu'il y ait une coupe. On se trouve à quel endroit ici, Denis? On voit le château de la Chasse en contrebas, qui est une petite merveille.
Voilà, alors ici on est sur la route de la Seigneurie, c'est-à-dire que quand vous prenez au niveau du club hippique d'Andilly, la route qui serpente vers Montlignon, la route un petit peu des crêtes, et ben là avec cette coupe qu'on a été obligé de faire pour ces châtaigniers, hein, je le répète toujours, qui sont dépérissants, parfois secs, et qu'on replante, on a découvert un paysage extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voit le château de la Chasse comme ça au fond du vallon. Hein, il est posé là depuis 800 ans et effectivement c'est une vue d'exception.
C'est comme dans un livre d'images, hein, dans ces beaux livres d'heures du Moyen-Âge, on voit ce château avec ses tours coupées, on le voit, on l'aperçoit plutôt de loin, perdu au milieu d'une forêt absolument superbe, avec des verts très différents qui se détachent, et en effet une crête, et quelques arbres remarquables qui nous entourent. Il y a encore des châtaigniers, Denis.
Alors voilà, il y a encore des châtaigniers, il y a des zones de dépérissement qu'on replante, même si la maladie gagne, il y a encore des zones de châtaigniers. Et puis alors, sous nos yeux, évidemment, on a ces espèces de soldats noirs, là ce sont les manchons qui entourent les petits chênes qu'on a plantés pour remplacer les châtaigniers. Bon, quand on regarde au fond des manchons, on voit quand même qu'il y a des feuilles, on voit qu'il y a un petit chêne qui est là, qui a été planté cette année et qui fait 20-25 cm de haut. Certains sont séchés, ça peut arriver parce qu'on a une canicule, mais globalement, ils vont tenir, dès qu'il y aura le premier orage, ils seront un petit peu ravivés, revigorés et vont redémarrer. Voilà, donc paysage d'exception. On a laissé une petite tache d'arbre mort parce que ça c'est important, parce que les gens nous disent oui, non mais l'ONF évidemment, vous avez tout coupé et puis maintenant vous nous dites que c'était malade, c'est un peu facile. Alors pour se justifier, on leur laisse une belle tache au milieu et on voit que les châtaigniers étaient complètement grillés et c'est la preuve du coup que l'action de replantation était indispensable. Voilà.
Et aucune chance qu'il ne reverdisse un jour.
Ah non, quand un arbre est sec comme ça et tout blanc, il ne va pas reverdir. Non, ça s'est jamais vu encore.
Il se moque. Mais on peut pas trouver meilleur spécialiste de la forêt de Montmorency que Denis Hémer, qui vit depuis près de 40 ans maintenant, à quelques années, j'ose même pas dire de la retraite, mais de son changement d'activité. Hein, Denis, 40 ans ici, vous connaissez chaque arbre.
Non, je connais pas chaque arbre parce que le massif est grand, on est plusieurs forestiers, 2000 hectares malgré tout, ça fait beaucoup. Mais disons que oui, j'ai fait pas mal de pas dans cette forêt qui est pour moi quelque chose d'exceptionnel.
Elle était exceptionnelle aussi pour nos auditeurs qui viennent s'y promener ou ceux qui viendront s'y promener. Hein, nous avons laissé la forêt il y a 2 mois au printemps et en hiver, on a fait, je le disais, à la troisième saison, on avait une forêt en décembre, janvier, extrêmement grise, austère, assez terne. On l'a vu reverdir au printemps, c'était absolument sublime, avec les bouleaux, les chênes qui commençaient à peine à pousser, et maintenant c'est un épanouissement absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez, Denis Hémer, nous faire une sorte de diagnostic de l'état de la forêt aujourd'hui, au mois de juin 2022?
Alors le diagnostic de la forêt, tout d'abord ça passe par le travail qu'on est en train de faire en ce moment, parce qu'on travaille avec l'INRAE, hein, Et l'INRA nous donne des éléments avec la photo satellite Sentinelle 2. C'est-à-dire qu'on fait des échantillons au sol où on détermine avec très grande précision un rayon de 20 mètres d'arbre en disant telle placette dépérissante, celle-là l'est moins, telle branchaison, un truc assez technique. Et une fois qu'on a fait ces 40 placettes sur l'ensemble du massif, on envoie ça à l'INRA et Sentinelle 2, le satellite au-dessus de notre tête qui passe régulièrement, met un filtre et il nous sort la globalité de la carte de la forêt avec des couleurs. Noir, c'est crevé. Orange, ça va mal. Et vert, ça va encore. Hein, c'est presque de la magie, mais effectivement, on a fait ça il y a déjà 5 ou 6 ans. Et c'est la réalité. Donc, on a pu voir que la maladie de l'encre gagnait du terrain, mais qu'on a réussi quand même à en éliminer les zones où les châtaigniers étaient complètement crevés, à replanter. Voilà, donc on est en train de lutter pour sauver ce massif. Et puis, les châtaigniers, il y en aura toujours, parce que c'est quand même grand et tout le massif n'est pas complètement grillé. Mais c'est vrai, quand on voit cette immensité verte, ben, on voit qu'il y a des zones autour du château de la chasse qui n'ont pas le même vert, parce qu'on a la zone un petit peu où on a des chênes, des aulnes, on n'a pas le châtaignier. Dès qu'on monte un petit peu plus haut, on est sur les sables de Fontainebleau. Là, sur le sable, on a les châtaigniers qui n'ont pas le même vert. Et puis sur la crête, on a d'autres choses. Donc tout ce mélange de vert, il y a des zones de pins. Alors moi, je les reconnais évidemment parce que j'ai participé à la plantation dans les années 80. On a mis quelques zones avec du pin noir. On a quelquefois du pin sylvestre. Bon, il y a quelques taches d'essence différentes. La grande globalité du massif, c'est quand même ce fameux châtaignier qui représente la plus grande partie du massif. Et puis on a ces trouées. Quand on a fait une coupe, on voit une trouée là-bas. Il y en a une. On sait que là, on a planté des chênes et que les générations à venir verront des chênes sortir avec cette teinte un petit peu verte comme ceux qu'on a là-bas. Alors on a laissé des zones à chênes quand on avait la chance d'en avoir. Là-bas on avait des chênes, on a laissé cette belle tache de chênes qui sont assez gros. Là on avait la chance d'avoir un petit bouquet d'érables qu'on a laissé au milieu de la plantation. Donc quand on a la chance d'avoir d'autres essences que le châtaignier, évidemment on les sauvegarde.
Évidemment. Alors les chênes, vous parlez de ces verts un petit peu différents. Le châtaignier a une feuille verte assez brillante, je dirais, et qui tire vers la lumière, vers le jaune un peu. Le chêne a une feuille plus austère, je dirais, un vert plus profond. Un vert profond, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. On a toutes les tendances de vert sous nos yeux, là. Alors, tout en sachant que les jeunes châtaigniers, ils ont pas tout à fait le même vert que ceux qui sont plus grands. Et puis, les châtaigniers, bon, on en a pas trop de grands autour de nous, mais ils ont des chatons. Donc, il y a une petite, ce qu'on voit là-bas est un peu jaune, finalement, à tâche de châtaignier, parce qu'il y a les chatons des châtaigniers qui sont là. La fructification est en route. Enfin, voilà, on a toutes ces couleurs et qui sont vraiment quelque chose d'assez beau à observer de loin, comme ça.
Et à l'endroit où on se trouve, on a des poussées de digital qui mesure plus d'un mètre, parfois deux mètres de haut, et puis aussi du millepertuis. Alors la digitale, c'est une de ces fleurs à clochette assez fort, assez grande, des très belles tiges violacées, et le millepertuis, il me semble, Denis, que ce sont aussi des plantes qui devaient être utilisées au Moyen-Âge sur le plan médical. Il me semble, hein, si vous connaissez toute cette histoire-là.
Bien sûr. C'est-à-dire que les hommes, au début, ils n'avaient pas la pharmacie, évidemment, donc c'est simplement empirique. Hein, ils testaient telle plante et puis ils se rendaient compte que ça avait eu tel effet. Et les anciens qui connaissaient un petit peu les plantes, ils savaient les plantes comestibles déjà. Hein. On savait que telle et telle plante, on pouvait la manger sans qu'il y en ait trop de problèmes. Et puis celle-là rendait un peu malade. Et puis celle-là avait des propriétés, je ne sais pas, qui faisait digérer ou etc. Donc c'est à force de, j'allais dire entre guillemets, de mourir de faim et de goûter des plantes pour se sauver la vie souvent, qu'ils ont appris un petit peu quelle était leur faculté à leur dépens, parce qu'ils pouvaient aussi bien goûter un champignon vénéneux ou je sais pas quoi, hein, évidemment. Mais enfin, ça devait être assez terrible. Et puis celui qui avait la connaissance des plantes, il avait une sacrée connaissance, évidemment, parce qu'il pouvait parfois se soigner avec.
Voilà, nous allons continuer notre parcours d'aujourd'hui dans cette forêt estivale. On est donc, pour les auditeurs, on est sur le chemin de la Seigneurie. Hein, vous aurez, si vous y passez, on est sur quelle parcelle, Denis ?
Alors ici, c'est la parcelle 204. Bon, un mot sur les parcelles, il y a, je sais pas, 250 parcelles dans la forêt qui sont disséminées comme ça, un petit peu dans le même coin, certaines, d'autres. C'est pas l'escargot des arrondissements de Paris, hein. Mais disons que les numéros de parcelles, on essaye de les entretenir pour qu'on puisse se repérer dans ces 2000 hectares.
D'accord. Et donc, dans cette, à partir de cette parcelle, nous allons poursuivre. Et pour les promeneurs qui aimeraient venir découvrir cette, ce point de vue sur le château de la Chasse, qui est vraiment unique, eh bien, donc, chemin de la Seigneurie à partir de la petite route qui va de Daumont à Montlignon. À Montmorency.
De Daumont à Montmorency, voilà.
Voilà. Voilà, nous allons écouter un petit peu de musique, Denis. Votre choix musical, votre premier choix musical, c'est...
Alors, mon premier choix musical, j'ai écouté l'album d'Albin de la Simone. C'est que des musiques, ça ressemble à des petites musiques de films, et le titre « Il pleut » me plaît bien. Puis aujourd'hui, je sais pas, il y a 30 degrés, là, donc « Il pleut », c'est sympa.
Albin de la Simone, « Il pleut ». Un endroit absolument peu connu, hein, j'imagine qu'il est connu que de très peu de monde. C'est un endroit perdu au, au milieu de la forêt, du côté de Montlignon. Je ne sais pas sur quelle parcelle on se trouve, mais on est devant une statue de la Vierge, dite Vierge Noire. Elle est montée sur un empilement de rochers. Elle est... décoré de fleurs et d'ex-voto que des gens viennent déposer. Cet endroit est peu connu. Comment il a été réalisé et quand, Denis Hémer?
Alors donc, l'emplacement de la Vierge Noire, moi j'ai connu le site il y a déjà une trentaine d'années, et je pense qu'on l'appelle Vierge Noire parce que elle était au milieu d'un parc, qui était sans doute un parc privé à l'époque, et elle était toute noire, la mousse et tout ça avait recouvert cette sculpture. Et puis le site a été un petit peu réhabilité, sans doute quand c'est devenu forêt domaniale, et elle a été peinte en blanc avec voilà du bleu. Enfin, que les gens qui viennent voir la Vierge noire, ils viennent voir une Vierge blanche finalement. Donc c'est un peu curieux. Alors on connaît l'histoire parce que l'abbé Bernard Lemain a un texte où il explique que pourquoi il a érigé cette Vierge, et ça a été fait en l'an 1901 pour le 15 août. Il avait envie d'avoir cette sculpture de la Vierge qui domine la vallée. Donc le 15 août 1901, en procession, ils sont venus depuis Montlignon, et puis ils ont installé cette Vierge qui est, je sais pas, qui est sur un promontoire de 1m80, c'est une sculpture en fonte qui fait 1m70 de haut, et puis elle terrasse un serpent. Enfin, c'est une œuvre très très belle, et on voit que c'est très fréquenté, hein, comme tu le dis, les gens viennent, ils mettent des fleurs, ils font petites bougies. Bon, en forêt, on n'aime pas trop les bougies parce que la forêt peut brûler, mais enfin voilà, on espère que la Vierge nous protège de tout ça. Puis le châtaignier, c'est un bois qui brûle mal, mais enfin voilà, donc en gros, un endroit fréquenté par des habitués, et on espère qu'il sera pérennisé comme ça, qu'il ne sera pas abîmé par, ni vandalisé.
Alors, on entend des tirs dans le micro, et ça peut étonner. De quoi s'agit-il, de l'IMR?
Alors, les tirs qu'on entend au fond du commentaire sur la Vierge Noire, c'est parce que dans le fort de Montlignon, il y a le centre pour la police nationale où ils s'entraînent à tirer. Et ça se passe à Montlignon, donc beaucoup de policiers de France viennent s'entraîner au tir dans cette zone. Et quand on se promène dans cette zone de la forêt, non, ce n'est pas de la chasse, non, ce n'est pas des braconniers, c'est la police nationale qui s'entraîne et qui apprend à tirer juste.
Merci, il fallait le préciser. On est donc dans ce site ombragé, et on apprécie aujourd'hui l'ombre des... L'ombre des châtaigniers, mais il n'y a pas que des châtaigniers au-dessus de la Vierge Noire. Je crois qu'il y a d'autres essences d'arbres.
Alors nous avons évidemment la Vierge Noire, elle est entourée de rhododendrons qui ont dû être plantés. Et puis on a quelques chênes, pas si mal. Oui, c'est vrai qu'il y a différentes essences aux abords, mais on a quelques chênes, on peut le dire. C'est pas si souvent, en forêt de moment aussi.
Alors, on me demande souvent quelle est la différence entre le être et le charme. Est-ce qu'on pourrait... pour nos promeneurs, leur préciser quelle est cette différence. Deux arbres qui se ressemblent beaucoup, essences qui sont très proches.
Deux essences qui se ressemblent beaucoup. Donc il y a un pense-bête. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. C'est-à-dire tout autour de la feuille du hêtre, quand vous regardez des petits poils, et tout autour de la feuille du charme, il y a des petites dents. Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Voilà.
Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Voilà, et donc j'espère que vous allez vous en souvenir. Donc des petites dents sur la feuille, c'est ça, c'est une feuille
sur
très
feuille
sur le pourtour de très très découpée la feuille du charme, et il y en a dans la forêt de Montmorency.
Oui, bien sûr, il y a quelques charmes dans la forêt de Montmorency, et peu de hêtres, mais quelques-uns aussi.
Oui, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns que j'apprécie énormément vers le plumet. Il y a quelques très très beaux spécimens. Voilà, on va continuer notre balade avec Denis Humer. On se trouve là actuellement devant un parterre de fougères qui est très très généreux, d'une très belle couleur. En pleine forme, la fougère, là. Je crois qu'il y a plusieurs centaines d'espèces de fougères. Et je crois même que la forêt de Montmorency abrite une espèce assez rare qui est l'osmonde royale. On aura peut-être l'occasion d'en croiser à certains moments de notre balade. On continue avec Denis Humer. On marche à pied, on déambule dans la forêt comme notre ami... Notre cher Jean-Jacques Rousseau, qui a dû connaître cette forêt de Montmorency. Alors nous sommes descendus, nous avons quitté la Vierge Noire, et nous nous retrouvons avec Denis Humer devant un magnifique spécimen qui a un spécimen de chêne qui a une écorce splendide. Vous pourrez l'apercevoir sur les photos que vous aurez sur le site de l'émission. Vous verrez aussi Denis Humer en train de mesurer la circonférence de ce chêne. Il est très particulier et très beau. C'est un de vos arbres préférés, Denis.
Voilà, un de mes arbres préférés. Alors, ils sont dans la parcelle 214, un petit peu au-dessus du chemin de la Marée à Montlignon. Et du coup, on a mesuré cet arbre et on voit qu'il fait 5,60 m de circonférence. Donc c'est l'un des plus gros chênes de la forêt de Montmorency. Alors on a un très très beau chêne aussi qui est sur la route d'Aumont-Montmorency. Je crois que lui aussi est dans les 6 mètres de circonférence, quelque chose comme ça. Mais celui-là, dans les prochaines publications qu'on fera, on va en parler parce qu'il a une ambiance, il est au fond d'un vallon, il a des racines bien implantées dans le sol, un houppier magnifique qui se développe comme ça assez largement.
Un houppier ?
Le houppier, c'est l'ensemble des branches du haut de l'arbre. C'est vrai qu'il y a plein de termes techniques comme ça qu'on dit. Hein, l'écorce, ça s'appelle le rhytidome aussi. Hein. On ne dit pas souvent, oh, le beau rhytidome, ça ne se dit pas. Bon, rhytidome crevassé, tout ça, c'est des trucs un peu techniques. Mais l'écorce de l'arbre est très marquée. On voit, enfin, bref, un arbre magnifique. Si vous baladez en forêt, un petit peu au-dessus du chemin de la marée, vous devez l'apercevoir.
En effet, c'est ce chêne avec son houppier, j'adore ce mot, le houppier du chêne est extrêmement... une question bête, mais alors complètement folle. Est-ce qu'on peut dénombrer le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre? Est-ce que ça s'est fait à l'ONF dans vos études? Est-ce qu'on mesure la quantité, le poids ou est-ce qu'on peut dénombrer des feuilles?
Alors le nombre des feuilles et leur poids, évidemment, ça a une incidence énorme, le poids des feuilles, parce que souvent des arbres tombent à cause du poids de leurs feuilles, ils sont très penchés, puis les feuilles font un poids et à un moment donné, le poids des feuilles plus un petit coup de vent, l'arbre tombe, donc ça doit être important. Là, quand on le voit de dessous, on voit qu'il n'y a pas trop de jours dans le houppier, justement, puisqu'on en parle, et du coup, ça veut dire que l'arbre est bien feuillé, est en bonne santé. Mais voilà, je ne peux pas vous dire le nombre de feuilles, d'ailleurs des études sur là-dessus aussi, sans doute.
Alors, ceux qui connaissent très bien les arbres pourront faire des recherches et nous dire, il doit y en avoir des centaines de milliers, hein, c'est sur un arbre. Pareil, 5,60 m de circonférence, c'est beaucoup, non ?
5,60 m de circonférence, et puis qu'on voit en dessous, le sol est tout propre, il n'y a que quelques fougères, c'est parce que la lumière n'arrive pas à pénétrer au sol, et du coup, il n'y a pas de plantes qui se développent. Alors, quand on a une partie de châtaignier crevé, eh ben, on a des ronces qui arrivent, parce que les ronces, eh ben, la lumière arrive jusqu'au sol, et toute la végétation est herbacée, les ronces se développent. Donc là, sol très propre veut dire feuillaison importante.
Et une circonférence pareille, c'est signe que c'est un arbre évidemment assez âgé. Est-ce qu'on peut évaluer son âge à ce monsieur-là qui est très imposant?
Alors ce monsieur peut avoir 250-300 ans, c'est sûr. Hein. Il a dû voir passer du monde sous ses, sous ses branches, mais ça reste un bel arbre qui a sans doute dû être tout seul, parce qu'on faisait des coupes régulièrement dans le châtaignier de Montmorency autrefois, et plusieurs fois il a été isolé et laissé comme ça, alors qu'on avait coupé autour. Bon, là, ici, on est en présence d'une coupe sur à peu près un hectare de châtaignier parce qu'on avait une zone de dépérissement. La coupe a été faite. On a laissé des arbres autour de ces 2-3 chênes et puis quelques châtaigniers pour un petit peu abriter du vent. On ne voudrait pas qu'ils se cassent la figure. Donc, on a fait le nécessaire pour préserver au maximum cet arbre qui est un arbre d'exception.
Un arbre d'exception dans un environnement d'exception aussi, puisqu'on est au creux d'un vallon, très, très à l'abri et un peu mystérieux, je dois dire. Les arbres qui ont été coupés, là, on voit des monticules, enfin des tas de bois qui sont coupés à, disons, à 1,20 m, 1,30 m à peu près.
Alors voilà, il y a plusieurs catégories de bois. Donc il y a tout d'abord le bois qu'on a coupé en 2,30 m, c'est du bois de trituration, du bois qui va aller pour faire des panneaux de particules, qui va être broyé. Ça, c'est la qualité un peu moindre. Après ça, on a des billons qui font 3 m. Ceux-là, on va faire du bardage, ils vont être utilisés d'une façon un peu plus noble. Et puis on a enfin les grumes. Quand on garde le tronc de l'arbre, c'est pas souvent, c'est que là, on a pu sauver quand même un tronc d'arbre qui pourra faire des planches, donc qui est à peu près 5, qui n'était pas dans un état de dépérissement trop avancé. Et puis il y a du 2 m qui sera du bois de chauffage, c'est des gros diamètres qui ne se triturent pas, mais là ce sera carrément du bois de chauffage. Il y a 4 ou 5 catégories de bois par coupe, et du coup voilà, cette zone-là sera replantée. Et voilà. Alors ces chênes qu'on peut voir, comme celui-là qui est très très beau, il n'est pas là par hasard. On voit qu'il était au pied d'un vallon, donc ça veut dire que le ruissellement et tous les éléments fertilisants du sol sont descendus jusqu'à lui. Il avait les racines bien plantées dans ce sol très riche, et il doit avoir des accroissements énormes parce qu'il poussait très très bien. Un arbre un petit peu perché dans une zone plus pauvre, bah il sera quand même moins gros, il aura peut-être un peu plus souffert. Alors que celui-là, on voit qu'il a dû bénéficier de conditions un petit peu exceptionnelles pour arriver à se développer.
Pour écarter toute idée, tout préjugé au fond, parce que les gens se posent beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on coupe, qu'est-ce que ça devient, est-ce que finalement l'ONF ne fait pas une recherche de profit, qu'est-ce que ça devient tous ces tas coupés, ils vont être emportés vers des usines de trituration, justement, de bardage, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de secret. Hein. L'usine de trituration, elle est à Yvetot, c'est l'INEX. C'est eux qui vont faire de la trituration et qui vont aller aux meubles que vous avez dans votre entourage, dans votre maison. Après, c'est les grumes. On a un gros acheteur de grumes qui s'appelle Rahuel, qui est un breton, qui est spécialisé dans le châtaignier, qui travaille avec des architectes parisiens, qui va faire des bois d'exception, des meubles d'exception. Voilà, donc c'est pas du bois qu'on a coupé comme ça et qui est balancé au hasard. Là, on a été obligé de couper et forcément, puisque le peuplement dépérit, il y a une grande part de bois qui va aller en bois de chauffage, hein, malheureusement. Mais là, l'idée, c'est quand même de renouveler cette forêt, au pied de ce gros chêne qui a 300 ans, on va planter des chênes qui auront 2 ans. Et puis, ma foi, on est dans une nurserie, on a des petits chênes qui vont pousser, on a le grand-père qui est là. Tout arbre, aussi beau soit-il, a une durée de vie. Celui-là a 300 ans, on lui espère d'aller à 400 et à 500. Mais à un moment donné, ce sera fini. Il faut se conformer à cette réalité biologique. Qu'un arbre a une durée de vie, il est comme les hommes, c'est comme nous.
Tout le vivant est malheureusement éphémère, mais cet arbre devant lequel nous sommes, au pied duquel nous sommes, et on se prosterne devant ce spécimen assez extraordinaire. Venez le voir donc sur cette parcelle que vous dites
la parcelle
214. Alors nous sommes devant donc cet arbre extraordinaire, remarquable, et y a des adeptes de l'énergie, de la puissance énergétique procurée par les arbres. Est-ce que Denis, vous qui connaissez beaucoup les arbres, ils vous parlent et ils vous communiquent leur énergie?
Alors voilà, moi je suis fan des arbres évidemment, hein, ça paraît assez logique. Les gens font de la sylvothérapie, c'est-à-dire qu'ils vont dans la forêt, ils embrassent un arbre. C'est vrai que toucher un arbre, c'est sympa, il peut y avoir le courant tellurique du sol, il peut y avoir sa force. Et puis quand on connaît un arbre, il y a des gens qui vont voir la Vierge et qui confient leurs problèmes et qui parlent de leur enfant qui passe le bac ou de problèmes plus graves ou je sais pas. Mais on peut aussi devenir ami avec un arbre. Un arbre, finalement, vous venez voir ce gros chêne énorme qui a 5,60 m de circonférence et puis après ça, il y a une espèce de dialogue qui s'installe. On dit voilà, lui, il a tenu tous ces hivers difficiles, il a connu les années où j'étais enfant, il a connu mon mariage, enfin, l'arbre, il a forcément connu la guerre de 14 et tout ça. Enfin, donc cet arbre a un vécu, on a un vécu, et quand on passe parfois dans la rue, moi il y a certains que je connais bien, quand je les croise, je dis tiens, c'est un peu comme un ami, je dis lui, voilà, tu vois, aujourd'hui il fait mauvais, je vais aller travailler, lui aussi il a connu le mauvais temps. Enfin, ce que je veux expliquer, c'est qu'il peut y avoir un rapport affectif avec un arbre, et quand on le connaît bien, tiens, une branche qui s'est cassée, il commence à vieillir, tout ça, comme une personne un peu âgée qui serait cassée le col du fémur. Enfin, l'arbre a une vie qu'on peut détecter en l'observant. Si j'observe celui-ci, je vois que dans le bas il a des branches sèches, c'est pas trop grave parce que voilà, c'est des branches qui ont été dominées, qui n'ont pas de lumière. Mais on voit que des enfants ont attaché une espèce de corde pour grimper. Je vois que des enfants ont caché une petite scie au pied de l'arbre dans les racines pour pouvoir scier je sais pas quoi et faire quelque chose autour. Enfin voilà, un arbre ça a du vécu, un arbre c'est quelque chose comme ça qu'il faut aimer. Et puis voilà, et quand on fait cette coupe, évidemment, alors ça peut être paradoxal parce que les gens disent mais alors vous aimez les arbres et puis vous êtes obligé de couper des bois comme ça. Eh bien oui, je sais que pour avoir un chêne de 300 ans, il faut qu'un jour ce chêne ait eu 1 an et 2 ans. Et il en est ainsi. Voilà, on est obligé comme ça de faire ce qu'on peut. Toute solution comporte des inconvénients. Là, on a fait une coupe, et effectivement, cette coupe, ça fait une trouée. Esthétiquement, ça peut être discutable. Mais nous, parmi les différents scénarios qu'on avait étudiés à l'ONF, on s'est dit que replanter certaines zones petit à petit, c'était la solution d'avenir, c'était la solution à long terme pour pérenniser cette forêt de Montmorency.
À 200, 300 ans. Et voilà, et comme ça, on frise un peu le goût de l'éternité. Denis, on va continuer notre balade, mais peut-être avez-vous un peu de musique à nous proposer dans cette devant cette personne extraordinaire que nous avons devant nous.
Voilà. Alors on va faire un truc très classique, très ancien, un petit Maxime Le Forestier, comme un arbre dans la ville. Alors là on est comme un arbre dans la forêt, mais on est quand même pas loin de la ville et je pense que là on est dans le thème.
Comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines on les recouvre de gris, comme un arbre. Comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles. Comme un arbre dans la ville, entre béton. Où j'ai vécu, des parkings d'honneur posthume, entre béton et bitume, comme un arbre dans le vide. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps.
Nous sommes maintenant dans un endroit encore assez mystérieux, une sorte de château un peu enchanteur, un peu comme dans le Grand Mône, au bout de la forêt. On est au Bois Corbon, c'est une maison, c'est votre bureau, c'est le centre nerveux de l'ONF dans la forêt de Montmorency, Denis Hémer.
Alors voilà, donc Bois Corbon, c'est 60 hectares de forêt fermée au public, c'est une zone de repli, une zone de calme. Autrefois, il y avait le château de Bois Corbon qui était en face, qui a été démoli dans les années 90. Ce château qu'on voit dans le film avec Bourville, le mur de l'Atlantique, où c'est la commanderie des Allemands, etc. Donc ce château est quand même dans l'histoire du cinéma. Et puis, on n'a pas pu restaurer le château, c'est en très mauvais état, mais on a ce bâtiment de bois corbon qui en fait était la ferme du château, alors qu'il y a un bâtiment très intéressant qui est un petit peu un style anglo-normand avec des briques rouges, avec un petit peu sorte de colombage, il y a un balcon, enfin bref, bâtiment très intéressant, tuile en ardoise, et ça revêt un charme évident, ce domaine de bois corbon avec pas mal d'essence. Là on a un très gros chêne, on voit un très gros tilleul, un peu plus loin des pins noirs ont été plantés, bref, un mélange sympa d'essence. Et puis surtout, ces 60 hectares, ça sert de repli aux animaux de la forêt qui sont quand même un petit peu dérangés par le public. Là, ils peuvent rentrer et être un peu au calme.
Oui, et donc qu'est-ce qui s'y fait là, dans ce bâtiment, dans cette ancienne ferme qui a beaucoup de charme, je veux dire?
Alors dans ce bâtiment, on a tout simplement en haut les bureaux de l'ONF, on a des salles de réunion, on travaille, on a nos ordinateurs, et puis tout le, comme on dit, le centre nerveux de l'ONF, où on bosse, où on se réunit, et, etc.
Et l'ONF, ici, en fait, vous gérez 2000 hectares de bois, des kilomètres et des kilomètres de sentiers, finalement, vous êtes assez peu nombreux hein, pour gérer tout ça, Denis et Maire.
Trois techniciens forestiers sur le massif de Montmorency, deux sur l'île Adam et un sur Carnal. Ça représente les trois gros massifs forestiers du Val d'Oise. C'est sûr que Montmorency a une pression périurbaine qui est importante. Hein. Toujours un Révy, un Capel, il s'est passé quelque chose. On a nos 12 journées de chasse à organiser en hiver. Enfin, il y a un ensemble d'activités, les coupes, les martelés, les replantations, les différentes actions d'accueil du public. Voilà, on va parler tout à l'heure un petit peu des animations qu'on a prévues au château de la chasse. Il y a fort à faire.
Oui, ben, j'imagine, pour les trois techniciens. Il y a à peu près 500 000 personnes qui traversent, qui parcourent le site chaque année, c'est ça?
Il existe le chiffre de 5 millions de visiteurs par an en forêt. L'activité principale des gens, c'est un petit peu d'aller se balader en forêt quand ils ne savent pas trop quoi faire. Je pense que tiens, si on allait se promener au château de la chasse ou ailleurs, et effectivement, alors on en parlait tout à l'heure, il y a ce fameux rôle récréatif de la forêt. C'est vrai que la forêt, c'est l'espace où on peut aller se balader, où l'air est pur, etc. Bon, on a aussi parlé beaucoup des coupes aujourd'hui. Alors, la filière bois, c'est 400 000 personnes qui travaillent. Donc, la forêt produit aussi du bois. Bon, il y a des coupes, il y a des meubles qui sont autour de vous dans votre salon, qui ont été fabriqués par des gens qui bossent dans des scieries, dans des menuiseries. Il y a tout ce personne qui grouille autour de cette forêt française. Hein, pratiquement le tiers de la surface de la France est boisée. On a l'une des plus belles et d'une plus riche forêt d'Europe. Voilà. Voilà, on a un potentiel énorme, ça fait travailler des gens, ça fait tourner des industries, ça fabrique les charpentes de vos maisons, et c'est quelque chose qu'il faut bien quand même avoir en tête.
Et effectivement, hein, c'est des 400 000 personnes qui travaillent dans la filière bois, voilà un chiffre très impressionnant. On parle actuellement évidemment beaucoup de réchauffement climatique, et à juste titre, on est en plein dedans. La forêt respire et nous fait respirer, Denis et Maire, sur le plan environnemental, sur le plan aussi de la biodiversité. C'est un lieu absolument à protéger. C'est ce que vous faites chaque jour, hein, dans votre,
bien sûr,
c'est
bien
votre
sûr.
Mission à l'ONF.
Mais chaque mètre carré, la forêt domaniale de Montmorency a été rachetée par l'État dans les années 70, et je pense qu'il n'y a pas un mètre carré qui peut être grignoté par des riverains, par n'importe qui. On a mis ces fameuses grosses bornes en pierre marquées FDM, forêt domaniale de Montmorency, qui font le pourtour du massif, et avec ce périmètre, et ben on est en lutte pour bien garder cette forêt et pour sauvegarder ce poumon. Alors la forêt de Montmorency, elle est ovale, elle ressemble effectivement à un poumon, et ça fait penser tous les jours que les arbres absorbent du gaz carbonique, rejettent de l'oxygène, et puis voilà, quand on a un meuble en bois chez soi, je vois une table devant moi, là ben on a fixé du carbone aussi finalement, hein, et voilà, donc ça c'est important, et il faut bien avoir tous ces rôles de la forêt en tête, le rôle récréatif, le rôle de production de bois, tout ça c'est important, et voilà, et on a jamais plaisir à couper un arbre, mais quelquefois cette forêt produit aussi du bois, et il faut le rappeler.
Oui, mais il faut la régénérer aussi. On était tout à l'heure avec ce chêne monumental, c'est une sorte de monument de la forêt, 300 ans sans doute, et 5,60 m de circonférence, c'est dire s'il a vu et entendu des choses. Donc sur le plan de l'écosystème, si on veut, il y a beaucoup d'oiseaux, on peut peut-être les entendre là à l'instant. Il y a aussi des insectes, il y a un certain nombre d'animaux. Vous avez parlé des 12 journées de chasse. Il y a encore quelques centaines d'animaux sauvages qui vivent ici, dans la forêt de Nîmes.
Voilà, alors donc le préfet demande à l'ONF d'organiser 12 journées de chasse par an pour limiter la prolifération du grand gibier. On tue des chevreuils, des sangliers. Alors les sangliers, évidemment, qui se développent très très vite, peuvent aller sur les routes, créer des accidents. Donc on a cette obligation qui est une contrainte, qui est difficile à organiser. Et on tue, disons, depuis pas mal d'années, à peu près 200 sangliers par an dans la forêt. Et il y en a toujours. Donc la forêt produit des sangliers, le sanglier se développe très vite. Il semblerait que le réchauffement climatique l'aide aussi, parce que, bon ben voilà, le mauvais temps peut-être a été plus nuisible pour le développement des animaux sauvages, je ne sais pas. En tout cas, on a bien l'impression qu'il y a de plus en plus de sangliers, qu'ils se développent, qu'ils vont même empêcher de ferrer de la forêt. Et on est dans l'obligation de faire ces journées de chasse coûte que coûte.
Ils ont de quoi se nourrir, hein, tous ces animaux, parce que vu le nombre de chênes qui occupent le territoire, il y a des frênes aussi, ils sont très très friands de faines de frênes, et puis d'autres animaux. Les chevreuils, de quoi ils se nourrissent au fond?
Bon, les chevreuils, ils broutent un petit peu comme ça. Alors justement, pourquoi on met ces fameux manchons autour des chênes? C'est pour éviter que le chevreuil prenne un chêne, et puis le suivant, il suive les lignes, et puis il vienne brouter. Voilà, on dit on protège les arbres de la dent du gibier, parce que le chevreuil, il peut brouter, s'il est en surnombre, il peut aussi un petit peu dégrader les plantations et la forêt. Donc on regarde un peu les abroutissements, on dit, ou les zones où le chevreuil est intervenu. Oui, le sanglier mange les fennes, donc le fruit du hêtre, et puis il a des glands, il a des châtaignes, il a des pelouses, il peut retourner à la terre. À un moment aussi, il a un petit paradis. Effectivement, il y a beaucoup de sangliers, on peut le dire.
D'autres animaux qui font partie de cette biodiversité, ce sont les batraciens. Alors, parce qu'il y a plusieurs étangs, hein, à part l'étang très connu du château de la chasse, il y en a d'autres dans la forêt. On peut les dénombrer, il y en a 3-4.
Bon, alors il y a l'étang Godard, qui est une zone de promenade très connue aussi, avec le château de la chasse, c'est les deux zones les plus fréquentées. Puis il y a l'étang Marie, hein, on peut signaler aussi le crapaudrome, là où ils ont mis un petit peu une barrière pour les crapauds, et puis tous les matins ils viennent leur faire traverser la route, parce qu'ils vont vers les étangs pour se reproduire et pour pas qu'ils se fassent écraser. On a mis un crapauduc, qui s'appelle un crapauduc. Voilà. Ouais. Alors donc, on fait traverser les crapauds. C'est une activité comme ça qui est intéressante pour eux, évidemment. Comme ça, ils finissent pas sous les roues des voitures.
Bah, écoutez, il faut conserver encore ces braves animaux qui sont assez mal aimés dans l'ensemble. Au niveau de là actuellement, l'été, c'est vraiment là une floraison, une feuillaison extraordinaire. C'est l'épanouissement de la forêt. Quelles sont les problématiques qui sont propres à l'été pour vous? Technicien de la forêt, Denis Hémer.
Les problématiques de l'été, c'est un petit peu le... Comment dire, on est obligé de continuer les coupes. Hein, la forêt, elle est classée en état de crise. Et du coup, pour la nidification, on est quelquefois ennuyé, parce qu'on dit on continue nos coupes, les oiseaux sont en train de nicher, donc on essaye de faire des zones un peu plus tranquilles. Enfin, c'est pas facile à faire, mais on est un petit peu condamné à faire ces coupes malgré tout, pour arriver à avancer, à faire nos replantations, à suivre notre programme. Donc il y a ça, il y a le poids des feuilles qui font quelquefois des branches se cassent. Hein, ça arrive, c'est ça la période d'été. Souvent sur le périmètre, il y a des riverains qui nous disent, vous voyez l'arbre qui est derrière chez nous, bon ben il faudrait venir l'élaguer parce que il est tombé. La vraie problématique de l'été, c'est qu'il y a un monde fou en forêt, c'est qu'il y a des dégradations, il y a parfois des gens qui ont fait un feu, il y a parfois des gens qui ont fait la nuit une rave party et qui ont tout laissé sur place. Donc je dirais pas que l'homme c'est le meilleur ennemi de la forêt, mais on a en juin une surfréquentation, souvent des problèmes, parfois des accidents. Enfin, c'est la période de l'année où la forêt subit une grosse pression.
Il y a beaucoup de risques, évidemment, et on pourrait inciter les promeneurs à respecter infiniment ce massif qui est absolument unique et magnifique. On a peut-être l'occasion d'écouter encore un peu de musique,
oui,
Denis.
Oui, alors on en parlait tout à l'heure, on parlait du mystère du sous-bois, des trolls et tout ça. Et au plus loin que je me souvienne, je pensais à ce groupe Ange. Le groupe Ange, c'est un groupe rock, c'est peut-être le groupe français le plus célèbre à être resté inconnu. Et quand j'étais à l'école forestière, j'écoutais un titre sur l'album Émile Jacotet qui s'appelle « Sur la trace des fées ». Et voilà, « Sur la trace des fées », pour moi, ça évoquait le sous-bois, ça évoquait le mystère, le rêve. Et si on peut écouter ce titre-là, qui est quand même un petit peu ancien déjà, mais bon... C'est un bon souvenir.
un bon souvenir de Denis Hémer, donc sur la trace des fées avec ce groupe Ange. On continuera dans un instant notre promenade et on se dirigera tranquillement vers un nouveau rendez-vous, hein, puisqu'on y fait aussi beaucoup d'animations au château de la Chasse. On va aller suivre les fées et on se retrouve avec Denis dans un tout petit instant. Voilà, vous êtes toujours entre chien et loup dans notre émission culture et nous sommes toujours en compagnie de Denis Hémer dans le massif forestier de Montmorency. C'est une balade absolument merveilleuse qu'il nous offre aujourd'hui et ce n'est pas fini parce que dans le massif forestier il y a le château de la chasse qui en est un peu le cœur et il va s'y passer des choses là dans quelques jours à peine. Denis Hémer.
Voilà, programme des animations dans quelques jours à peine. Nous avons le 1er juillet, vendredi soir, Branche et Ciné. Branche et Ciné, c'est un écran immense qu'on installe en face du château de la chasse et on projette un film. Il y a des transats pour le public, 150, 200 places. Les gens s'installent. Cette année, le film proposé s'appelle Le Peuple Loup. C'est un film d'animation qui a été primé. Il paraît que c'est un très très bon film, genre musique irlandais, féerique, etc. À voir. Et puis en première partie, ben il y aura un groupe qui va passer, ça s'appelle le groupe Coup, c'est tout, blues, un peu comme ça, ils vont faire un peu de musique avant, parce que quand on est au cinéma, on éteint la lumière, quand on est en forêt, c'est un petit peu plus compliqué, il faut attendre que la lumière descende toute seule. Donc l'année dernière, on a constaté qu'il y a un petit laps de temps un peu creux où les gens attendent que la nuit tombe pour passer le film.
Le 1er juillet, il faudra attendre à peu près 22 heures pour avoir un peu de noir.
Mais pour pallier cela, nous avons un food truck avec des crêpes, vous pouvez manger sur place, il y a un petit concert avant. Donc une vraie animation pour ce 1er juillet, vous pouvez venir en famille tranquillement, à pied jusqu'au château. Vous êtes accueillis, il y a de quoi manger, vous pouvez vous installer sur les transats. Ça peut être une soirée très sympa, pour peu que le temps soit de la partie, mais on peut espérer quand même voilà que ce sera une belle météo et que vous passerez une belle soirée. Là donc je compte sur vous pour venir ce 1er juillet.
Mais ce sera payant ou ce sera...
C'est une manifestation tout à fait gratuite, évidemment, vous venez comme ça, c'est un quelque chose qui tourne un peu partout. Et moi, l'année dernière, j'ai vu le film et j'y croyais moyennement et j'ai été bluffé par la grandeur de l'écran et la puissance que prend un film quand il est projeté sur un écran extrêmement grand. Je crois que c'est un écran gonflable, j'avais jamais vu un écran aussi grand et c'est vrai que c'est puissant. Voilà. Alors ça, c'est le 1er juillet. Ensuite, on vous laisse partir en vacances tranquillement et on se retrouve... troisième week-end de septembre pour les Journées du Patrimoine. C'est les week-ends de l'année où le château de la chasse est ouvert, tout simplement. C'est vers le 18 septembre, vous vérifierez, samedi et dimanche, troisième week-end de septembre. Alors là, nous avons des visites, des animations, nous avons devant le château de la chasse une scène avec concert, nous avons une expo photo, peinture, vous pouvez rentrer dans le château, poser les questions aux forestiers, même les plus dures. On a une tribune, vous pouvez venir nous taper dessus. Au figuré, bien entendu, mais c'est vrai que dans ces Journées du Patrimoine, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai répondu à beaucoup de questions que les gens se posent. Et puis, c'est quand même un contact intéressant avec le public. Pour le concert, alors moi, j'essaye de prendre des groupes locaux. J'avais découvert un groupe jeune, les Punters, là. J'avais trouvé ça vachement bien, mais je sais pas s'ils pourront venir. Je les ai appelés hier. Enfin, voilà. Quand on a des produits locaux, c'est comme l'agriculture proche ou les produits bio. Nous, on aime bien avoir un groupe local. Et je crois qu'ils sont du coin Taverny ou je sais pas où. Enfin, voilà. Donc ça, ça peut être sympa. Et puis, on a un autre groupe de jazz aussi que j'ai contacté qui s'appelle Zaza Gabor. Je les ai vus jouer à Saint-Leu et ils ont un flûtiste qui est quelqu'un qui était à l'Opéra de Paris, je crois. C'est musique d'exception avec une basse, une batterie, flûte et un clavier. J'ai vu le concert, je pense que ça vaut le coup. Et puis comme ça, du jazz dans la forêt. Bon, l'année dernière, on a eu le Big Band de Franconville qui est venu. Voilà, c'est un petit peu notre fête de la musique à nous. C'est le troisième week-end de septembre. Je vous en supplie, venez, vous ne serez pas déçus.
Eh oui, alors déjà que la forêt est un lieu enchanteur, on le voit hein, avec tous ces chemins, tous ces sentiers pour les randonneurs, pour les promeneurs, pour les familles. Il y a les étangs, il y a les animaux, il y a les arbres qui sont tous les uns plus sublimes que les autres. Et puis il y a ces animations. Donc le 1er juillet, le vendredi 1er juillet, à partir de 20h30 à peu près.
Oui, même à 19h, vous pouvez venir. Ce sera déjà open pour le food truck et tout ça. Ça vous fait une petite balade, une petite soirée en forêt. On s'allonge dans l'herbe, on suit les transats, on regarde le château qu'on éclaire aussi, et puis on parle du château. Enfin, c'est une ambiance comme ça qu'il ne faut pas rater.
À ne pas rater. Et puis, on se retrouvera évidemment au mois de septembre pour les Journées du Patrimoine. Pour notre part, on va bientôt se quitter, cher Denis, on va quitter la forêt, mais on se donne rendez-vous au mois d'octobre, peut-être vers la fin octobre, ou le tout début novembre, pour la dernière saison de ces émissions émission, de cette série d'émissions sur le massif forestier de Montmorency. C'est un immense plaisir pour nous et pour nos auditeurs de se retrouver avec un tel spécialiste, un tel expert et un tel amoureux de la forêt et de la nature. Nous retrouverons donc pour la quatrième saison, celle de l'automne, voilà. Denis Hémer.
Alors un petit mot, évidemment, je pense qu'il faut une musique de conclusion, évidemment. Et puis là, alors on a fait un petit peu des choses anciennes, on a eu Maxime le Forestier, ça date pas d'hier, Ange encore moins. Et du coup, moi je suis fan de Philippe Catherine et j'ai entendu un truc qui vient de sortir, ça s'appelle Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'espère que ce sera le tube de l'été, où il dit quand on ferme les yeux, on est en Californie, quand on les ouvre, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors c'est un petit peu décalé, c'est un peu humour, Philippe Catherine il est vendéen, donc il peut se permettre. Je vous assure, écoutez ça, pour moi je suis un très gros fan.
Et nous aurons découvert, en plus de l'expert en forêt, c'est le musicien et l'amateur de chansons et de créations nouvelles. Un très grand merci, Denis, de nous avoir accompagnés encore pour cette balade. Un grand merci aussi à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 18h pour une nouvelle émission entre chiens et loups. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et à lundi.
Si tu fermes les yeux, on est en Californie. Si tu ouvres les yeux, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le soleil est heureux de se cacher dans son lit. Le soleil est un dieu qu'on n'a pas choisi. Il se couche derrière la mer, tout comme ma Bel-Air le plus souvent. Il négocie ce que le vent lui dit. Suffit de baisser le tempo, on roule vers San Francisco. Suffit de s'allonger dans l'eau, on est déjà des héros. Si tu fermes les yeux, on est en Californie. Si tu ouvres les yeux, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est bien aussi si tu fermes les yeux, tu vois ces phares à fossettes. Si tu ouvres les yeux, bah c'est ma tête. Et qui te dit oui à Saint-Gilles-Croix-de-Vie? We